Bonsoir à tous et bienvenue dans le live de Radio Éthique. Ce mois-ci, nous vous proposons une émission spéciale puisque nous fêtons les 6 ans d'existence de la radio du changement durable. Avec nous, durant une heure, plusieurs invités, mais je ne vous en dis pas plus, surprise, surprise. Nous sommes en direct du forum de la FNAC pour la seconde édition. Un anniversaire qui tombe à pic puisque la semaine du développement durable s'achève. L'occasion de revenir sur les actions passées et à venir menées en principauté en faveur du changement durable. Mais au fait, existe-t-il une semaine du développement durable à Monaco ? Ma première question, je m'empresse donc de la poser à son Excellence Bernard Fautrier, ministre plénipotentiaire et administrateur délégué de la Fondation Prince Albert II, engagé dans la protection de l'environnement. Excellence, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, existe-t-il une semaine du développement durable à Monaco ?
Écoutez, il n'en existe pas de façon institutionnelle. Ce serait facile de vous répondre qu'on essaie d'en faire toute l'année et que donc on ne se focalise pas sur une seule semaine. C'est un peu une démarche constante, que ce soit des services de l'administration, que ce soit des associations qui s'occupent de développement durable, je pense à MC2D, ou que ce soit de la Fondation par les actions qu'elle mène, essentiellement elle à l'extérieur.
Pour vous présenter rapidement aux auditeurs qui sont certainement un peu partout en France et qui ne vous connaissent peut-être pas, pour faire simple, vous êtes un peu le monsieur développement durable ici à Monaco.
C'est beaucoup dire. Disons que je sévis dans les problématiques de l'environnement et du développement durable depuis... Il y a une milestone de départ qui est la conférence de Rio, dont on va fêter le 20e anniversaire l'an prochain. Donc effectivement, ça a occupé une large partie de ma vie. Et aujourd'hui, j'ai quelques missions liées au développement durable pour le compte de l'administration, notamment dans les domaines des énergies et de la mobilité propre. Et puis, je suis, comme vous le disiez, l'administrateur délégué de la fondation que le prince a créée pour se préoccuper, entre autres, de questions de développement durable.
Une fondation qui mène de nombreuses actions, notamment deux dossiers retiennent particulièrement votre attention ces temps-ci. Le premier, c'est celui de la déforestation.
Oui, bien, je dirais que c'est de l'opportunisme conjoncturel, puisqu'on est dans l'année internationale de la forêt, mais la problématique de la déforestation est quelque chose d'important. Vous savez que, bon, il y a toujours des querelles de scientifiques, mais disons, allez, entre 15 et 25% des émissions globales de gaz à effet de serre sont imputées aujourd'hui à la déforestation. Que la forêt, ça a un triple rôle. D'abord, ça a ce rôle négatif en matière d'évolution du climat. Ça a un rôle essentiel en termes de conservation de la biodiversité. C'est le meilleur des conservateurs de la biodiversité, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit la forêt tropicale, la forêt équatoriale, la forêt méditerranéenne, la forêt alpine. Et puis c'est un élément essentiel du cycle de l'eau. Donc il est vraiment très important effectivement d'éviter la déforestation. On était il y a quelques semaines avec le prince souverain au Guatemala, et qui se caractérise par un taux de déforestation absolument calamiteux, qui est dû, je dirais, à l'évolution de la société, aux besoins de terres agricoles mal maîtrisées de la part des gens sur place, mais où on peut essayer d'aider à contenir cette déforestation. Et on a notamment visité un programme où on a réussi à figer à peu près 18 000 km², donc c'est à peu près pas loin de deux départements français, hein, et où il y a des programmes de conservation pour assurer tout à la fois la conservation de ce qui est encore une fois un poumon essentiel et un moyen essentiel de lutte contre le changement climatique, tout en permettant aux populations locales d'avoir un développement harmonieux. C'est indispensable.
L'approche à ce sujet de la Fondation est principalement économique. Pour simplifier, si les forêts représentent un intérêt économique, alors il est plus simple de les préserver. C'est un petit peu la logique.
Alors, c'est tout un débat qui n'est pas terminé et qui n'a pas encore connu un aboutissement réellement définitif sur le plan notamment des conventions internationales. C'est celui de l'octroi, effectivement, d'une vraie valeur économique à la forêt, à sa gestion, à sa préservation. Bon, il y a eu des avancées qui ont été faites. Il y a eu le protocole qui a été adopté à la convention de Nagoya l'an dernier. Il reste effectivement à donner un véritable statut à la forêt et à lui donner la possibilité, je dirais, légale de générer notamment par sa conservation des certificats de réduction des émissions, puisque si on la déforeste, on émet, et donc si on la conserve, il faudrait qu'on puisse donner une valeur économique qui est celle effectivement de la non-destruction.
Et à ce sujet, combien de projets sont actuellement soutenus par la Fondation?
Alors, si on raisonne globalement, effectivement, on a passé le cap des 150 projets qui ont été soutenus, ceci depuis donc 2006, donc disons 4 ans. Ça représente en volume financier, puisqu'il faut quand même parler chiffres, un peu plus de 15 millions d'euros. Voilà, c'est les chiffres qui ont été actés par le conseil d'administration qui s'est réuni la semaine dernière. Donc, je les ai présents encore à l'esprit, puisque ça ne fait qu'une semaine qu'on en a discuté.
Et si vous deviez nous présenter un coup de cœur parmi ces projets, ce serait lequel?
Il faut dire que je risque d'avoir beaucoup de coups de cœur et donc de devoir faire appel au cardiologue. Je crois que, bon, incontestablement, celui qui nous a beaucoup mobilisés et qui continue à nous mobiliser, c'est celui qui est lié à la protection d'une espèce qui est emblématique des eaux méditerranéennes et qui est celle du thon rouge. Car il y a eu une vraie mobilisation, il y a eu une action engendrée par la Fondation avec des partenaires éminents tels que le WWF et qui a quand même abouti, même si sur le court terme ça aboutit à un échec puisque ce qui avait été proposé et qui avait été repris par le gouvernement princier qui était l'interdiction du commerce international, la proposition a échoué à la conférence de Doha, c'était il y a à peu près un an. Il y a quand même eu une extrême sensibilisation et il y a eu des avancées qu'on a constatées et notamment une vraie prise de conscience et on va le voir, mais on l'a déjà vu à la campagne 2010, je dirais l'établissement de règles du jeu qui sont enfin suivies et qui peuvent laisser espérer qu'effectivement on arrivera à sauver cette espèce car le contraire serait véritablement catastrophique.
On y reviendra dans un instant. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a un autre programme, c'est Wood Forever qui est largement impliqué dans la lutte contre la déforestation. C'est pour sensibiliser l'industrie du yachting à utiliser finalement des essences venues de forêts gérées durablement.
Oui. Alors effectivement, c'est un prolongement des actions générales en matière de lutte contre la déforestation. C'est une idée qui a été lancée par MC2D d'ailleurs, en partenariat avec la Fondation et puis avec un certain nombre d'autres institutions, notamment les organismes de certification, qui a conduit effectivement à avoir des actions sur les professionnels de la filière nautique, de façon à ce que, puisque c'est une filière où on utilise beaucoup de bois tropicaux, même si on utilise de plus en plus de matières plastiques, on utilise encore beaucoup de bois noble, et donc sensibiliser tous ces utilisateurs, d'abord au niveau du yachting, mais aussi plus largement au niveau de tous ceux qui concourent à un acte de bâtir, et pas uniquement sur mer, mais également les entreprises de bâtiment, d'utiliser des bois qui soient des bois certifiés et qui effectivement soient issus de forêts qui ont une gestion durable. C'est, je crois, quelque chose que l'utilisateur, que le consommateur a assez rapidement approprié à sa démarche.
FSC, hein,
voilà, on se préoccupe quand on achète un meuble maintenant, ou quand on achète du papier, ou quand à la limite on achète un livre, de regarder s'il y a le petit logo qui montre que tout ça est venu d'un système qui a été géré de façon durable. Ce qui ne veut pas dire que la partie est gagnée, il y a encore énormément, j'allais dire, de braconnage, d'utilisation irrégulière, notamment, bien entendu, toujours dans des régions qui sont des régions en développement, avec des problèmes de stabilité politique.
Mais le bassin du Congo, notamment.
Entre autres, le bassin du Congo, encore que les choses s'améliorent beaucoup sur le bassin du Congo, où je crois qu'il y a eu une prise de conscience, je pensais davantage à certains pays d'Asie, l'Indonésie encore, qui est un lieu où il y a sans doute encore beaucoup de marge de progression pour avoir une gestion durable des forêts.
Vous le disiez en introduction, l'année 2011, c'est l'année officielle par les Nations Unies des forêts. Est-ce que ça a facilité votre action qui, elle, a débuté en 2010?
Oui, je parlais d'opportunisme, mais ce n'est pas vrai. On a commencé effectivement à parler de questions de forêts l'an dernier. Il faut dire que c'est en 2010, puisque c'était, si je me souviens bien, à la conférence du climat à Copenhague, si ma mémoire ne me trahit pas, c'était donc même en 2009, fin 2009, qu'on a signé un accord de partenariat avec le Fonds pour la forêt, pour la préservation de la forêt du bassin du Congo, qui est une grosse institution, mais qui nous permet d'avoir la possibilité, à travers eux, de soutenir, de réaliser un certain nombre de projets de terrain ou de projets de formation. Les aspects formation sont essentiels à ce sujet. On a un beau projet, que l'on prolonge d'ailleurs, que le dernier conseil d'administration a souhaité prolonger, qui est un soutien à des organismes de formation de techniciens de la foresterie au Cameroun. Et c'est, je crois, par là qu'il faut commencer. C'est sensibiliser ceux qui sont les acteurs sur place.
L'autre dossier majeur de la Fondation, c'est celui du thon rouge. Vous en parliez tout à l'heure. Concrètement, ici à Monaco, il y a des choses qui ont été faites.
Alors, à Monaco, il y a eu une sensibilisation qui a été faite beaucoup par les professionnels sur place. D'abord, au départ, là aussi, grâce à la société civile, mais aussi par un certain nombre de professionnels, notamment de professionnels de la restauration, qui ont pris des initiatives que l'on a, comment dirais-je, repris, qu'on a amplifiées et qui ont conduit à ce que d'une façon volontaire, et parce que ça étonne souvent quand on en parle à l'étranger, on a dit, ah, le prince a pris un ukase pour interdire la consommation, la commercialisation du thon rouge à Monaco, pas du tout. Je dirais qu'on a fait plusieurs réunions pour expliquer aux professionnels, que ce soit ceux de la restauration ou ceux de la distribution, qu'il y avait là, de façon emblématique, une espèce qui était en voie de disparition et qu'il fallait faire quelque chose. Et que par ailleurs, si vraiment on aimait les sushis, on pouvait très bien en manger, fait avec autre chose qu'avec du thon rouge. Bon, il y a eu plusieurs restaurateurs d'ailleurs qui nous ont régalé de toute une série de sushis pour ceux qui les aiment, fait avec autre chose que du thon rouge. Donc voilà, c'est parti vraiment d'une manifestation un peu spontanée, avec le soutien une fois de plus de MC2D, et ça aboutit à cette sensibilisation je dirais, de la communauté locale à ce sujet.
Les autres espèces présentes en Méditerranée, il y a des choses qui sont faites pour leur préservation, notamment je pense aux petits dépliants édités par le musée océanographique afin de bien choisir les poissons que l'on consomme. On en parlera peut-être avec Monsieur Roux davantage. Peut-être quelques mots.
J'espère qu'il va vous en parler parce que c'est moi qui le lui ai passé, ce dépliant. Oui, mais je crois que ça fait partie de cette sensibilisation. C'est quelque chose effectivement que le musée océanographique a diffusé. Le concept a lui-même été repris de quelque chose qui existe aux États-Unis depuis un certain nombre d'années, c'est de faire part aux consommateurs de ce qui peut être consommé sans crainte, et donc il y a un feu vert, de ce qui peut poser problème et de ce qui est carrément en grand danger. Hein. Bon, et alors effectivement, en Méditerranée, il y a le problème du thon rouge, mais il peut y avoir d'autres problèmes. On a été alerté il y a quelque temps, il y a peu de temps d'ailleurs, par un de nos partenaires éminents, et on est fiers d'avoir un tel partenaire qui est le Pew Environmental Trust, qui est une énorme machine américaine, mais qui a des ramifications en Europe aussi, sur le fait qu'il semble qu'il y ait des problèmes sur des requins en Méditerranée. Alors, je ne veux pas effrayer les touristes, il n'y a pas de requins dangereux en Méditerranée, mais il y a des espèces de requins en Méditerranée qui sont parfaitement inoffensifs, moi, du temps. Je pratiquais un peu la mer, je me souviens d'en avoir vu, et ces requins sont en danger, comme ils le sont, alors beaucoup plus, bien entendu, fortement, dans certaines régions de l'Asie, où vous savez très bien qu'on a une tendance à se servir d'une partie de l'animal, et puis que pour qu'on fasse plus vite, on pêche le requin, on lui coupe les ailerons et on le refout à l'eau, parce que le reste n'est pas intéressant.
Et il se noie.
Vous voyez ce que ça peut donner, d'abord sur le plan, je dirais, de la mort de l'animal, et ensuite en termes de dégradation de la conservation d'une espèce.
La biodiversité, donc une des valeurs fondamentales de la Fondation Prince Albert II. Le salon Ever se tenait la semaine dernière à Monaco. C'est une autre de vos casquettes. Là, on fait un grand écart.
C'est presque un casque, là, puisque il y a des voitures.
C'est un salon, je le rappelle, dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Donc, on change de domaine.
Oui, bon, ben, Evert, c'est parti en 2005 de l'accueil à Monaco d'un événement international qui s'appelait EVS, c'est-à-dire Electric Vehicle Symposium, qui a eu beaucoup de succès, mais qui est un événement qui tourne sur tous les continents tous les 18 mois. Et à partir de ça, et en en parlant avec le prince à l'époque, on s'était dit qu'il pouvait être intéressant de sensibiliser par la présence d'un événement annuel qui serait à Monaco et qui serait dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables. Donc c'était la, si je me souviens bien, sixième édition qu'on a fait cette année. Et bon, ce qui est intéressant de voir, c'est que tout le monde a remarqué ça, c'est que la première année, on exposait des prototypes faits plus ou moins par des professeurs Nimbus un peu fumeux. Et bon, et les choses évoluent terriblement. Et aujourd'hui, lors du dernier salon, ceux qui étaient présents, c'était les grands constructeurs automobiles qui aujourd'hui produisent des voitures qui sont commercialisées. Alors, elles ont encore quelques défauts. Souvent, elles sont chères encore, parce qu'on en est au stade du démarrage de l'industrialisation. Je suis venu ici avec une voiture électrique, donc j'ai pas fait de bruit, j'ai pas pollué. Voilà. C'est un message important que là, Monaco veut véhiculer. Je dirais qu'il est bien adapté aussi à sa topographie. topographie, c'est qu'on peut avoir dans un milieu urbain, dès aujourd'hui, une mobilité propre et qui soit quasiment zéro émission en utilisant des véhicules électriques. Et il y a des efforts qui sont faits par la principauté de ce point de vue-là, parce qu'il faut encore des incitations financières tant que le niveau d'industrialisation n'est pas suffisant. Donc il y a des incitations financières à l'acquisition des véhicules électriques. Et puis il y a quelques petits avantages supplémentaires, le fait qu'on peut recharger gratuitement dans les parkings publics. On a 400 prises de recharge dans les parkings publics dès à présent. Voilà. Et puis qu'on a une belle plaque qui est singularisée parce qu'il y a un E qui montre bien qu'on est un véhicule électrique. Voilà.
Les énergies renouvelables, c'est quelque chose de très concret pour la Fondation Prince Albert II, puisque demain seront inaugurés des panneaux photovoltaïques en tout 60 mètres carrés de toiture, la toiture de la Fondation. Ça, c'est un acte concret pour un changement durable.
Vous êtes bien informé, en effet. Oui, alors, bon, les énergies renouvelables, c'est incontestablement une solution. On ne va pas ouvrir un débat sur l'énergie, surtout en ce moment. On peut dire beaucoup de choses sur un certain nombre de types d'énergie, dont moi, personnellement, je pense que de toute manière, on ne pourra pas sortir comme ça en disant du jour au lendemain qu'il faut en sortir. On vit avec le nucléaire et malheureusement, nos sociétés se sont bâties sur une consommation massive d'énergie à un prix raisonnable et aujourd'hui, seul le nucléaire peut nous l'apporter. En tout cas, je parle de l'Hexagone et d'un certain nombre de pays européens. Mais les énergies renouvelables, c'est incontestablement une solution parce que par définition, elles sont renouvelables et qu'elles ne sont pas fossiles. Le problème des énergies renouvelables, c'est que ça ne peut pas se mettre partout. D'une part, en particulier en milieu urbain, ce n'est pas toujours facile. Donc on essaie de montrer que ça peut quand même se faire, et notamment que ça peut se faire en matière de panneaux solaires. Et effectivement, on a fait un test sur les locaux de la Fondation. Mais ce qui est important, c'est que ça ne vient qu'en complément d'autres choses. Et l'autre chose, c'est la performance énergétique. Alors, on n'est pas à la télévision, sans ça, j'aurais pu faire un scoop extraordinaire, mais j'ai amené un papier. Ce papier, ça vous montre qu'en 5 ans, sur cet immeuble qui est un immeuble ancien, qui a pratiquement 120 ans, si je me souviens bien, en faisant des investissements qui ne sont pas quand même considérables, puisqu'on a à peu près investi 10 000 euros par an depuis 5 ans, on a réduit de 42% l'empreinte énergétique de ce bâtiment.
Alors que de plus en plus de personnes ont travaillé dans ce même bâtiment.
Je ne veux pas dire que ceux qui étaient avant nous ne travaillaient pas. Enfin, il y a 25 personnes qui travaillent dans ce bâtiment. Bien. Et donc, en 5 ans, on a réduit de 42% la consommation et donc l'empreinte de ce bâtiment. Alors, ça veut dire que c'est faisable et que c'est faisable en plus à des coûts raisonnables sur des bâtiments anciens. Et c'est, je crois, et de loin, la première chose à faire. Aujourd'hui, l'investissement le plus rentable, c'est l'investissement dans l'efficacité énergétique, parce que ça crée des emplois, ça a été d'ailleurs un volet important du Grenelle de l'environnement, ça crée des emplois, ça crée des activités nouvelles, ça permet de préserver, encore une fois, un parc immobilier qui se renouvelle à raison, si je me souviens bien, de 1,5% par an, c'est-à-dire qu'il faut 75 ans pour renouveler le parc immobilier. Et c'est là que les marges de progression sont importantes. Alors, elles le sont aussi, on peut faire un retour et revenir à la mobilité, elles le sont aussi en termes d'efficacité énergétique pour la mobilité propre. Je suis très content de savoir que c'est un véhicule électrique de la Fondation qui a gagné le rallye Monte-Carlo Énergie Alternative qui se organisait par l'Automobile Club, qui se courait le week-end dernier. C'est un véhicule électrique, mais qui est particulièrement efficace sur le plan consommation, y compris de consommation électrique. Voilà, donc ces aspects amélioration de l'efficacité, c'est sûrement ce sur quoi il faut se pencher le plus vite dans le domaine du problème énergétique. Après, la mise en place, en tout cas en milieu urbain, la mise en place d'énergies alternatives, bien entendu, elle vient en support, en complément. Il ne faut pas perdre de vue que les énergies alternatives, en tout cas le solaire et l'éolien, qui sont celles qui sont le plus développées aujourd'hui, elles ont quand même un défaut, c'est qu'elles sont intermittentes. Vous ne produisez pas de l'électricité éolienne quand il n'y a pas de vent et vous ne produisez pas de l'électricité photovoltaïque la nuit. Et donc, il y a une gestion de cette énergie à faire. Et donc, il faut en être conscient des limites sans pour autant, bien entendu, contester le bien fondé de développer ce type d'énergie.
Vous avez choisi de nous quitter sur la pastorale, la 6e symphonie de Beethoven. Pourquoi ce choix ?
pourquoi ce choix? Eh bien, d'abord parce que la pastorale, par définition, c'est la nature, donc c'est la biodiversité. Ça, c'est l'aspect écolo, hein, l'aspect écolo. C'est bon, c'est un panorama fait par Beethoven de ce que il ressentait en contact avec la nature. Puis il y a une raison, alors beaucoup plus personnelle et beaucoup plus historique, c'est que ça éveille en moi mon enfance où j'avais un professeur de musique qu'un certain nombre ont peut-être connu ici, qui était Fernand Bertrand, qui nous a malheureusement quittés très âgé il y a quelques mois, et qui nous passait, nous repassait la symphonie pastorale, y compris quand j'étais très petit. Et il y avait notamment l'orage qui m'impressionnait beaucoup, qui montre que là aussi, il y a des énergies qui se perdent dans l'atmosphère et dans le cosmos. Voilà pourquoi la symphonie pastorale.
Merci, Excellence, un extrait donc de la symphonie pastorale de Beethoven.
Merci à vous de me la faire réécouter.